Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux de ce jeudi ensoleillé. Vous ne vous sentez certainement pas désarmé, flingué, crevé par la vie aujourd'hui. Et peut-être même vous vous rêvez encore cow-boy dans l'âme, le colt et les bottes, ou chevalier au cœur pur et à l'épée néanmoins souillée. Yakuza dans la peau, sauce samouraï. Bref, à vous toutes et à vous tous, bonjour et bienvenue sur Fréquence 7 dans le magazine de la rédaction L'Onde Curieuse. Aujourd'hui, nous explorons, vous l'aurez compris dans ce subtil incipit, la question des armes. Car nous ouvrons le troisième chapitre d'une série d'émissions consacrée au vivre ensemble en paix, en amont de la journée internationale du vivre ensemble en paix, qui aura lieu le 16 mai, qui sera fêtée la veille à Aubenas, donc le 15 mai. Chapitre comme une petite graine de réflexion plantée par Olivier Horry, animateur à Fréquence 7 et philosophe, et qui propose un rendez-vous mensuel autour de cette table pour discuter d'une facette de ce vivre ensemble et nourrir la réflexion. Et donc, après les violences faites aux femmes en janvier, celles faites aux enfants en février, Olivier, tu viens évoquer avec nous la question des armes, leur dissémination et les réflexions que ça t'évoque.
Parfaitement, ça.
C'est bonjour ça. Olivier.
Bonjour Sophie.
Et bonjour Liam qui est à mes côtés, Liam qui est en stage donc chez nous et qui est autour de cette table pour la première fois. Salut Liam.
Bonjour Sophie.
Et salut Sylvain à la réalisation de cette émission.
Salut.
Je vous passe, je m'étais égarée peut-être dans un rapprochement que j'ai fait en préparant cette émission entre l'arme et l'alimentation, mais on évite. Et puis, puisque c'est une émission sérieuse, et on commence tout de suite par l'agenda. Allez, on s'aère le cerveau pour commencer, on prend la tangente. En amont de la Joyeuse Escale, le festival Art des Choix du Voyage et de l'Aventure, qui aura lieu du 8 au 12 mai et qui propose quelques rendez-vous en attendant. Ça commence ce soir à 19h à la passerelle de la Blachère pour un apéro nomade. Le principe, vous venez déguster quelques spécialités du monde en parlant voyage. Et jeudi, donc ce soir, c'est destination Asie avec un menu idoine. Et pendant ce temps-là, la radio Allô la Planète enregistre une émission en direct que vous pouvez écouter, vous pouvez même témoigner dans cette émission, découvrir le monde, en l'occurrence l'Asie, dans cette ambiance chaleureuse et conviviale et avec un petit boboon peut-être à manger, ce qui ne gâche rien, absolument. Donc ça, c'est ce soir à 19h à la passerelle de la Blachère. Et puis deux autres rendez-vous en amont de ce festival Joyeuse Escale, ce sont les courtes escales. En mars, il y aura deux dates avec deux lieux et un film. C'est ce vendredi à Rocle, à la salle des fêtes, et ce samedi à Prunet, aussi à la salle des fêtes. Et pour le film, c'est Noria, 35 000 km en deux chevaux au Laos. Ben ça ouvre, pas
oui,
mal hein.
Ça ouvre l'appétit.
Exactement.
Oui.
Donc ce sera vendredi ou samedi, vendredi à Rocle ou samedi à Prunet. Et puis évidemment il y a tout ça, on en discute et il y aura la présence du réalisateur Fabien Bastide pour discuter donc de ce formidable voyage au Laos. Vendredi, c'est la journée mondiale de l'eau et à cette occasion, le collectif citoyen pour la transition écologique au Pays des Vences organise aux Assions, une série de rencontres, d'animations, de projections et de débats autour de cette question. Quelles orientations, quels changements de pratique, quelles décisions on doit prendre pour préserver et partager cette ressource essentielle. Venez en discuter donc sur ces deux jours. Vendredi, à partir de 18h30, la soirée s'organisera autour de la projection du film « La rivière » de Dominique Marchais, qui sera suivi d'une table ronde. Le film « La rivière », Didier en a parlé à ce micro dans l'émission Cinémascope, un très beau film qui a eu d'ailleurs le prix Jean Vigo.
Oui.
Donc autour de ce film de Dominique Marchais, « La rivière », qui sera projeté à 20h à la salle communale des Assions, suivi d'un débat bien sûr. Et puis le lendemain, c'est-à-dire samedi, il y aura des stands, des conférences pour parler de ce thème. Et puis un petit concert, le concert de Katia Cardamome au chant et à la guitare pour terminer la soirée vers 18h30. C'est donc les rencontres du collectif citoyen au Pays des Vences avec pour thème « Quel avenir avec l'eau ?» le 22 et le 23 mars. Un autre rendez-vous samedi à la Ville-Dieu, qui est cette fois proposé par l'association IACA. C'est une balade en toponymie l'après-midi à 15h30. La toponymie, c'est l'étymologie des noms de lieux. Donc ce sera dans et autour de la Ville-Dieu. C'est une balade gratuite qui dure à peu près 2 heures. Et puis il y a une possibilité pour les personnes qui sont qui ont des difficultés à marcher. Il y a une possibilité de vous transporter en voiture sur 4 points du circuit, ce qui est pas mal. Après la petite balade vers 18h, un petit apéro dînatoire sorti du sac façon auberge espagnole. Toujours, ça fait toujours plaisir. Et à 3h, le clou de la journée, c'est un bal folk avec Yod Kistin. Et c'est à partir de 20h. Yod Kistin, c'est des airs traditionnels d'Auvergne, d'Ardèche, d'Irlande et de Bretagne. Et puis surtout, ce qui fait le charme de cette soirée, c'est un bal folk qui va avec. Donc on vous apprend à danser sur ces airs. C'est donc samedi 23 à la Ville-Dieu. Et tout cela grâce à l'association IACA. Enfin, on termine, avant d'entrer dans des réflexions philosophiques autour des armes à feu, avec d'autres réflexions philosophiques, puisque demain, vendredi, de 18h30 à 21h, à l'Aube, au Vence, se tient le prochain Café Philo animé par Sébastien, que vous aviez entendu à ce micro le 22 février. L'émission est à réécouter sur le replay de fréquence7.net. Et son Café Philo, demain, ce sera autour du thème l'autodéfense intellectuelle, penser librement. L'autodéfense intellectuelle, c'est quelque chose qui a été théorisé par Noam Chomsky. Il disait, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de votre cerveau. La deuxième est de vous extraire de tout système d'endoctrinement. Il vient alors un moment où ça devient un réflexe de lire la première page de votre journal en y recensant les mensonges et les distorsions, un réflexe de replacer tout cela dans un cadre rationnel. Voilà, donc c'est le programme de demain à l'Aube à partir de 18h30. Et Sébastien Charbonnier, pour l'occasion, vous mettra en situation. Il vous proposera justement des décryptages. Une information, qu'est-ce qu'on fait, par où on commence ? Comment on décrypte et comment on réfléchit vraiment avec ces deux hémisphères. Voilà, donc c'est demain à l'Aube à 18h30. Heureusement, pas de mise en pratique pour le sujet qui nous intéresse, mais peut-être une mise en musique.
Say goodbye. He didn't tell you the time.
Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Vous aurez reconnu peut-être derrière cette version, la version Nancy Sinatra en 1966. Et là, c'était Nicolai Sanson qui faisait une version assez chouette, assez décalée. Bang Bang, donc, il a tiré mon amour, m'a tué. Le fait d'avoir une arme chez soi triple le risque d'homicide intrafamilial ou impliquant un proche. On en parle dans cette partie magazine de l'onde curieuse, puisque on déploie cette thématique des armes avec Olivier Houry, animateur à Fréquence 7 et philosophe, qui poursuit la réflexion entamée il y a 2 mois en amont de la Journée internationale du vivre ensemble en paix qui aura lieu le 16 mai. Et célébré la veille à Aubenas. Chaque mois, donc, Olivier passe à InfoRC et RCF, et aussi chez nous, pour parler d'une facette de ce vivre ensemble. Et ce mois-ci, donc, la question des armes et la réflexion que ça t'inspire, notamment, je pense, sous 3 angles.
Oui, c'est vrai.
L'angle du droit.
Celui de l'imaginaire. Et enfin, peut-être... celui de l'histoire économique et technique et scientifique, parce que c'est important aussi d'enraciner la réflexion dans le temps long et dans le concret, le plus concret.
Alors on commence par la question du droit et de la légitimité de la détention des armes.
Oui, alors on est dans un fondamental du droit. Beaucoup d'écoles de philopolitique ou de sciences politiques pensent que la source de légitimité du pouvoir politique souverain, dans nos sociétés c'est l'État, hein, sa source de légitimité c'est de faire justement d'imposer la paix et d'assurer la sécurité. Ça serait la mission régalienne première. Il y aurait une sorte de mal endémique, congénital à l'espèce humaine. On aurait une tendance à s'exterminer les uns les autres pour prendre possession des biens les uns des autres ou prendre possession des uns des autres, carrément. Et il y aurait nécessité de mettre fin à cette guerre généralisée. Et pour ça, on retirerait la possibilité d'exercer la violence partout dans la société et on la concentrerait, cette possibilité, exclusivement dans les mains de l'État.
Ça pose déjà des questions. Ça pose aussi des questions sur, effectivement, le fait, est-ce que c'est propre à l'homme ou est-ce que c'est le fait, ou est-ce propre à l'homme dans certaines conditions sociétales, presque,
oui,
de civilisation.
Complètement.
Et ça, les préhistoriens, sur cette question, ne sont pas tous d'accord.
Non.
Puisque, qu'il y ait une forme de... d'agressivité, il faut peut-être différencier agressivité et violence.
Non, mais c'est-à-dire on voit bien qu'on peut prendre 2 points de vue opposés, voire contradictoires sur en quelque sorte même l'espèce humaine dans sa totalité, sans que personne évidemment ne puisse jamais trancher. À savoir, est-ce que spontanément les humains s'associent? De toute façon, les humains, à cause de leur mode de reproduction, vivent nécessairement ensemble. Donc ça, c'est plié, on vit ensemble. Bon, après, est-ce que spontanément, laissés à eux-mêmes, les êtres humains ont tendance à échanger, à commencer par des signes, des mots, des paroles, puis des biens et des services
et des personnes entre clans groupes sociaux,
l'exogamie. Est-ce que donc tout ça se fait, c'est assez platonicien finalement, la société elle naît des échanges, de la division du travail, voilà, ou bien au contraire est-ce que de manière, comme je le disais, endémique, les hommes sont habités par une pulsion égocentrée d'agressivité, sont spontanément dans la captation, dans l'agression, pas du tout l'échange, mais au contraire la captation. Et à ce moment-là, évidemment, c'est spontanément la violence qui s'exprime. Il est complètement illusoire d'aller chercher une prétendue origine ou une priorité chronologique dans la violence ou au contraire dans la paix. Ce qui nous intéresse, nous, humains, partout sur la Terre, c'est maintenant. Mmh. Or, donc, maintenant, on sait, comme tu le disais en introduction, on sait que quand il y a des armes, il y a plus de chances qu'il y ait des morts. Voilà. Mmh. Bon. Donc, il y a la réflexion sur le droit. Mmh. C'est une réflexion sur le droit aux armes. Qui doit avoir droit d'avoir des armes ?
Mmh. Et donc là, tu nous parles du monopole de la violence légitime, théorisé par Max Weber.
Oui, c'est savant et politique. Ouais. L'État s'arrogerait le monopole de la violence physique légitime pour justement en débarrasser tout le reste de la société. Alors on voit bien le danger que ça représente si ce monopole est mis entre les mains de personnes ou d'une personne dont on peut craindre qu'elle en fasse un mauvais usage. Finalement, le deal, il est là. Ceci dit, à partir du moment où on peut accorder une certaine confiance et surtout une certaine légitimité à l'État, par exemple une république démocratique avec un exécutif élu, bon, on peut avoir tendance à faire confiance. Et à ce moment-là, effectivement, ce qui pose problème, c'est la persistance d'un droit aux armes ou encore la persistance d'une détention de facto d'armes par des gens qui n'ont pas le droit.
C'est ça, puisque on voit bien aujourd'hui qu'il y a différentes catégories de population qui possèdent des armes, qui utilisent. Certaines ont le droit de les utiliser, d'autres pas d'ailleurs. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous dresser un portrait rapide ?
Ben, il y a un tableau curieux, donc je prétends pas qu'il est exhaustif, je pense qu'il est même probablement discutable, mais bon, si la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont assurées par la police et l'armée, bon, d'une part, normalement, dans la société civile des pays développés, de la France en particulier, bon, restons chez nous, ont le droit de posséder des armes en dehors des policiers et des militaires, les chasseurs et les tireurs sportifs. Voilà, c'est les deux groupes de personnes qui ont le droit d'utiliser des armes. Alors, les tireurs sportifs, c'est pour bien tirer. C'est du sport. L'idée du sport, c'est ça, hein, c'est que c'est une activité qui a pour fin elle-même. C'est-à-dire, pourquoi un tireur tire ? Pour bien tirer. Voilà. Bon. Et un chasseur, lui, il tire pour tuer des animaux, en général, quand il vise bien. Je sais bien qu'il y a les bons et les mauvais chasseurs, hein. Mais enfin, en règle générale, on chasse pour tuer. Et puis, il y a deux catégories qui ont des armes mais qui n'ont pas le droit. Moi j'ai trouvé les gangsters. Mmh. Donc eux, ils se servent des armes pour le business. Mmh. Hein, c'est pour que leur business continue à leur appartenir exclusivement. C'est les armes sur les points de deal, c'est les braquages, les trafics, voilà, etc. Et puis il y a les terroristes qui eux utilisent les armes juste pour terroriser. Justement. C'est-à-dire le but, c'est de vous montrer mort. Alors, en général, ça fait peur et ça fait faire des choses qu'on ne ferait pas spontanément sans ça. Voilà. Donc, c'est ça le but du terroriste. Donc, moi, ce qui me surprend, pour être très concret, c'est aujourd'hui avec quelle facilité, qu'on en ait le droit ou qu'on n'en ait pas le droit, on peut être en possession d'armes létales extrêmement puissantes, type fusil d'assaut, etc.
Oui, on peut rappeler peut-être que 85% des armes sont entre les mains de civils.
Ah bon, j'avais pas le chiffre, mais il fait flipper. Oui.
Voilà, donc ça décentre un petit peu, peut-être même l'idée même de violence légitime par l'État.
Et il y a une chose que moi j'ai constatée, alors j'ai pas de chiffres, malheureusement j'aurais peut-être dû travailler mieux. Mais en tout cas, le gouvernement avait décidé de récolter dans la société civile en France un maximum d'armes qui traînent parce qu'elles viennent d'héritage, elles sont là dans les familles, etc. Et ce glanage d'armes a eu un grand succès. Ça m'a semblé montrer que les Français ne tiennent pas plus que ça à posséder ces machins-là chez eux, parce que c'est vrai, une arme létale, si on est à peu près normalement constitué, ça fait pas si plaisir que ça. Enfin, ça devrait pas faire si plaisir que ça. Mmh. Hein? Donc, c'est malgré ce genre de campagne, on a tout de même cette dissémination des armes dont tu parles.
Mmh, 85% des armes, oui. Il y a une distinction que tu n'as pas faite, et je voulais savoir si elle te semblait pertinente, c'est la distinction entre les armes à feu et les armes blanches.
Oui.
Parce qu'il me semble que l'arme en elle-même n'est pas neutre, et comme le message n'est pas... Enfin, le médium et le message, ou le message et le médium, oui. C'est-à-dire l'arme en soi va induire certains comportements, et d'ailleurs, peut-être on y reviendra, mais il y a certaines études en psychologie sociale, moi, qui m'ont vraiment étonné. Donc, est-ce que, pour toi, la distinction entre arme blanche et arme à feu est pertinente ou pas ?
Complètement. C'est la dimension histoire des sciences et des techniques, histoire économique. S'il y a un fil qu'on peut suivre dans l'histoire de l'humanité, c'est son progrès technique continu et même exponentiel parce qu'il y a un phénomène d'accumulation. Donc le progrès produisant du progrès. Progrès, je veux dire simplement progrès au sens d'augmentation, qu'on soit bien d'accord. Et donc de l'âge de la pierre aux âges des métaux, puis à la révolution industrielle, etc., on constate l'indicateur le plus simple, c'est la quantité de puissance qu'un individu peut détenir pour lui à un instant T. Ça peut être la puissance de se chauffer, ça peut être la puissance de se déplacer avec sa voiture, avec son camping-car, avec son 38 tonnes si ça fait plaisir. Et puis il y a la possibilité technique de tuer. Alors qui est certes, on peut tuer. Il y a des armes pas tout fait. Regardez un peu ce qui a fait arme par destination dans l'histoire du crime. On peut tuer avec à peu près tout. Même le film de mon casque, là, je peux me pendre avec. Bon, mais il est évident qu'un sabre, c'est plus adapté quand même pour tuer quelqu'un qu'un fil de téléphone. Et alors, une arme à feu, alors là, c'est on peut tuer avec une facilité qui est absolument extraordinaire. Quelqu'un qui a à peine la capacité physique de bouger, peut exécuter, on voit les tueries aux États-Unis, un jeune arrive avec plusieurs fusils d'assaut et il vous exécute plusieurs dizaines de personnes avec malheureusement une sorte d'aisance qui ajoute, je crois, à la terreur d'une certaine manière.
Mmh. Oui, c'est ce qui me semble. J'ai l'impression dans ce que tu dis qu'il y a de plus en plus une illusion presque de violence propre, c'est-à-dire distancié par rapport à soi-même, et donc une facilitation de donner la mort. C'est de plus en plus facile et c'est de moins en moins impliquant ou engageant pour la personne.
Complètement. Vous regardez une vidéo de caméra de surveillance d'une tuerie de masse, vous regardez un jeu vidéo de combat, de tir, c'est très proche, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une facilité qui confine à une facilité presque ludique d'éliminer son prochain sans avoir la moindre capacité technique de combat, etc. Et dans la médiatisation, le mois prochain, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais dans la médiatisation des conflits, on arrive à donner aux gens la même illusion. On a l'impression qu'à la frontière russo-ukrainienne, il y a des petits bonshommes comme Tetris là qui arrivent les uns en face des autres. Bon, si vous faites le voyage, vous allez vous apercevoir que c'est moins propre. Hein.
Oui, c'est ça. Il y a tout un fantasme. On va y revenir. Ouais. Tout un fantasme, une mythologie, des représentations dans lesquelles nous sommes complètement baignés.
Si vous êtes chirurgien à Gaza, l'élimination des Palestiniens n'a pas la même couleur que quand vous êtes au Congrès des États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire?
Je voulais juste revenir sur cette idée de non-neutralité de l'arme.
Il y a une vraie question philosophique. Ouais.
Et il y a une étude, par exemple, qui a été menée... Il y en a eu de nombreuses en psychologie sociale, mais qui montrent que les gens qui brandissent une arme ont tendance à voir une arme dans la main de la personne qui leur fait face. Ah. C'est-à-dire qu'on arrive à un paradoxe où le fait d'être armé accroît le sentiment de sa propre insécurité, puisqu'on voit...
C'est passionnant, je ne savais pas, mais effectivement, d'un point de vue métapsychologique, ce n'est pas très étonnant, dans la mesure où l'autre, on le voit quand même à partir de soi. Donc si vous êtes vous-même, si vous ressentez de l'agressivité en vous, il est évident que vous allez percevoir l'autre comme potentiellement aussi agressif que vous. Donc il y a effectivement un effet miroir de cette sorte qui est particulièrement inquiétant. Et que tu mets en lumière là. Moi, il y avait une autre question philosophique qui m'intéressait, c'est qu'il est de bon ton en philosophie, de bon ton, je veux dire, il est légitime, de considérer qu'un moyen technique en soi, il est innocent, que tout dépend de l'emploi qu'on en fait. Voilà. Ça s'entend, mais en même temps, il est vraisemblable. J'en parlais à l'antenne d'RCF la semaine dernière. Il y a quand même vraisemblablement plus de chances de faire du mal avec un fusil d'assaut qu'avec un bouquet de fleurs. Mm. Power flower, voilà. C'est l'image qui m'est venue de quelqu'un qui porte des fleurs et de quelqu'un qui porte un AR-15. On se dit que quand même, celui qui a des fleurs, quelles que soient ses intentions, ça va être moins embêtant.
Ouais. Alors là, c'est vrai qu'on touche à quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement, le fait d'avoir un bouquet de fleurs en main, une arme chez soi, comme je le disais en amont, triple le risque d'homicide. Donc, évidemment, le risque d'homicide intrafamilial, c'est comme ça que je commençais l'émission. Mais une question se pose, qui va, je pense, ouvrir sur la question des représentations. Si on prend deux pays tels que les États-Unis, que tu connais bien, et la Suisse, ce sont deux pays où il y a énormément d'armes à feu. La Suisse est le quatrième pays au monde où il y a le plus d'armes à feu par personne. Ce qui se comprend aussi parce que... Voilà, exactement. Le service militaire est fait par les citoyens qui sont potentiellement amenés à aller se battre. Donc, ils possèdent chez eux une arme à feu. Alors, pour vous donner les chiffres exacts, 28 armes à feu par personne, pour 100 personnes chez les Suisses, et il y en a 120 chez les Américains. Cependant, il y a beaucoup plus de morts par arme à feu aux États-Unis. Il y a 14 morts pour 100 000 habitants par arme à feu aux États-Unis, et il y a 0,19 morts par habitant pour 100 000 habitants, en Suisse. Mm. Ce qui veut dire donc, évidemment, la seule possession des armes à feu ne débouche pas sur des morts par arme à feu.
Tout à fait.
Et il y a toute une question de représentation.
Complètement.
J'imagine. Alors, je ne sais pas si tu veux...
C'est tout à fait ce qu'on disait. Alors, d'une part sur le droit, c'est-à-dire qu'en Suisse, la détention d'armes est encadrée par le droit et la destination des armes est la défense nationale dont on parlait au tout début. C'est-à-dire que ça participe du monopole de la violence physique légitime de droit. Bon, donc forcément, il est parfaitement logique que, restant dans cette culture-là, dans cet imaginaire-là, il y ait très peu de dégâts. Bon. À l'inverse, aux États-Unis, on a le fameux Second Amendement, c'est-à-dire que vous avez l'idée que non seulement une armée doit pouvoir être mobilisable rapidement en cas de besoin, mais que chaque citoyen a aussi le droit de se défendre contre l'État, et en particulier contre l'État fédéral. Par conséquent, vous avez d'entrée culturellement, c'est l'imaginaire du cow-boy, c'est-à-dire qu'effectivement, on a d'entrée l'idée que chaque individu est susceptible d'être agressé et agresseur, et que c'est normal, et que on ne devrait pas s'étonner. Bon, j'ai consacré Le Dernier Jardin Suspendu, sont consacrés à un bouquin de Paul Auster avec son gendre Spencer Ostrander. Le gendre a fait les photos, Paul Auster, évidemment, a fait le texte, sur Bloodbath Nation, la nation bain de sang, c'est le titre anglais du bouquin, où Paul Auster montre brillamment, comme d'habitude Paul Auster, à quel point la violence et la tuerie de masse, elle est inscrite dans un imaginaire et qu'elle n'apparaît pas de manière magique. C'est l'effet et la conséquence dans les situations concrètes, réelles, d'une construction culturelle.
D'une construction culturelle et qui est aussi peut-être soutenue par une industrie, voilà. Par tout un système aussi économique, une société de production, avant même qu'elle soit de consommation, qui, notamment aux États-Unis dans les années 80, où il y avait une baisse des ventes d'armes à feu, a employé le marketing justement pour rendre désirable. Pour rendre désirables les armes, et qui devient donc un symbole à la fois d'émancipation, d'autonomie, de puissance, bien sûr. En fait, c'est même peut-être le cœur du sujet. L'arme est le symbole.
Il y a un imaginaire de l'arme aux États-Unis, évidemment, puisqu'il y a des armes légendaires. Hein, c'est le Sikou, c'est le Colt, hein, c'est la Winchester, hein, le premier fusil à répétition. C'est avant le fusil chargeable par la culasse et non pas par l'embout, inauguré guerre de sécession, etc. Enfin, il y a une technicité, une scientificité des armes, et puis il y a une économie des armes. Et ça, il faut quand même pas non plus se cacher derrière son petit doigt. C'est pas l'apanage des États-Unis. La France est un des premiers producteurs d'armes au monde et vendeurs d'armes. On est aussi à la tête, à la pointe pour l'élaboration de ces armes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on est vraiment en pointe. Et pour cette raison-là, on vend des armes.
Mais normalement, pas aux civils. Normalement.
Aux chasseurs et aux tireurs sportifs. Certes. Les tireurs sportifs utilisent du 22 long rifle. C'est létal, hein, le 22 long rifle. Hein. Les puissances des armes sont calculées en joules. Allez voir la puissance des armes 22 long rifle utilisées pour le tir sportif. C'est létal, c'est déjà très très impressionnant. Donc ça veut dire que vous pouvez vous inscrire dans un club de tir sportif et puis avoir chez vous un arsenal. Hein. Il y a eu des propositions de vendre des cartouches au bureau de tabac, quand même. Si bien que l'État, on n'en a pas parlé, mais l'État a aussi... Il y a tout un droit des toxiques. L'État a le monopole sur les deux principaux toxiques qui sont l'alcool et le tabac. Il a aussi le monopole sur les toxiques que sont les médicaments. Hein. Mais se développe un marché parallèle. Bon, bah, pour les armes, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a un marché parallèle qui peut se développer extrêmement facilement. Et le nombre de morts par balle en France aujourd'hui en est la triste illustration. Vous pouvez acheter une Kalachnikov au marché bien, bien black, bien, bien noir, pour pas très, très cher. Hein. C'est à la portée de la bourse d'à peu près n'importe qui, Kalachnikov. Hein. Il suffit de connaître un peu le réseau. Puis vous trouvez une arme létale à peu près aussi facilement que vous trouvez de la cocaïne, par exemple.
Et voilà, une arme, les armes, on le disait comme symbole de domination par excellence. Je me demandais d'ailleurs s'il n'y avait pas plus de recours aux armes pour les civils dans les sociétés qui sont fragilisées dans leur vivre ensemble, où les inégalités sont fortes et vécues comme telles.
C'est probable. Paul Auster, il vient dans le passage qu'on lit dans Les Jardins Suspendus, cette question de la fragilité sociale et individuelle qui conduit à l'utilisation des armes. Oui.
Je pense que Liam, tu voulais poser une question quand on évoquait la représentation, puisque Liam, tu es un joueur de jeux vidéo, et c'est une question aussi, les armes, on l'a dit, elles sont présentes partout, dans les médias, la télévision, etc., et aussi dans les jeux vidéo. Il me semble que tu avais une question, tu voulais poser une question à Olivier.
C'est pas forcément... forcément en rapport avec les jeux vidéo, c'est plus les médias en général, c'est que je me demandais, est-ce qu'il faudrait du coup complètement supprimer les armes de nos médias, ou est-ce qu'il serait plus pertinent justement de les montrer sous un autre angle, l'angle justement mortel des armes,
ah ouais.
Et plutôt pour essayer un peu de dégager ce
côté sexy des armes.
Oui, l'aspect glorifié vraiment des armes, parce que forcément, on montre tout le temps un protagoniste justement qui utilise ses armes, que ce soit dans les films, même les romans, surtout dans les jeux vidéo, bah, parce qu'on l'incarne directement.
Ouais.
Et au lieu de ça, on montre justement que l'utilisation des armes, on la banalise, c'est quelque chose de normal.
Ouais. Eh ben, c'est là que m'ont conduit mes dernières réflexions sur l'imaginaire des armes, parce que qui dit imaginaire dit image, évidemment. Et de ce point de vue-là, il y a encore une fois, toutes les cultures sont construites sur des paradoxes. Et il y a un paradoxe quant à l'imaginaire des armes, c'est qu'il y a toute une partie de cet imaginaire qui est un imaginaire de l'ostentation. C'est-à-dire l'arme, c'est ce qu'on montre, ce qu'on se montre, et avec, encore une fois, arme et armoirie, ça a la même origine. Mmh. Et dans les armoiries, il y a souvent des armes, des épées, des machins, etc. Bon. Et donc, il y a ce côté-là, c'est le samouraï, c'est l'armure, c'est du chevalier, c'est... Voilà. Et puis, à l'opposé, moi, pour avoir fait mon service militaire dans les transmissions, je suis assez sensible à ça, parce que dans les transmissions, ce qui est très important, c'est le secret. Et les transmetteurs, on est labellisé très secret défense. Très secret défense, c'est le plus haut degré de secret. Et ça porte évidemment essentiellement beaucoup sur la nature des armes qu'on va utiliser sur le terrain à un instant T. Évidemment qu'il ne faut pas que l'adversaire sache ce dont on dispose. Donc il y a le secret. Donc l'imaginaire des armes, c'est un imaginaire du « j'ai en secret une puissance folle » et puis « je peux te montrer une puissance folle ». Et je pense... Mais alors là, c'est vraiment... Je lâche ça comme ça. Il me semble que pour les armes, comme pour beaucoup de choses, le mieux, c'est de lever le secret d'un côté, donc montrer, en parler, puisque ça existe. Mais d'un autre côté, ne pas valoriser de manière ostentatoire. Et donc, comme tu le suggérais, plutôt expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, ce que ça produit comme effet. Parce que quand on sait ce que fait une arme... Enfin, fusée d'assaut dans la tête de quelqu'un sur laquelle, vous voyez, c'est tellement invraisemblable, c'est tellement incroyable qu'il y a des chances que ça donne moins envie quand même. Mmh. En particulier de se suicider par ce moyen-là.
Oui, puisque ça, on ne l'a pas évoqué, mais finalement, oui. L'utilisation des armes, c'est surtout envers soi-même.
Envers, contre soi, oui.
Et il y a aussi le fait que souvent les armes ont été utilisées dans des accidents. C'est souvent, par exemple, les enfants qui, en Amérique, découvrent l'arme des parents, et comme ils ne savent pas ce que c'est, ils vont vouloir l'utiliser parce que c'est la nature curieuse, et même pas juste avec les enfants. Par exemple, un adulte qui n'aurait jamais entendu parler d'armes avant, il découvre seulement un pistolet, il va se demander comment ça marche, et c'est là que...
Et surtout, il ne sait pas ce que ça fait. Mmh. Une arme, même de 22 longs, une balle de 22 longs rifles, par exemple, ça fait des dégâts considérables.
L'ignorance, encore une fois. Oui. On arrive à la fin de cette émission. Juste un mot, on se retrouve le mois prochain pour
les médias.
Donc la violence par les médias et dans les médias.
C'est exactement ça. Merci Sophie.
Eh bien, merci à toi Olivier d'être venu dans cette émission.
Je tiens à remercier encore une fois Fréquence 7 de laisser la possibilité de construire cette réflexion sur la violence, sur donc la paix. Par conséquent, et en compagnie d'InfoRC et de RCF. C'est vraiment très, très bien.
Merci Olivier. Merci Liam d'avoir participé à cette émission. Merci Sylvain de l'avoir réalisé. Restez à l'écoute de Fréquence 7 si vous voulez bien, si vous êtes dans la voiture ou si vous n'avez rien d'autre à faire. À 15h, c'est le Telex, vos messages, vos annonces, événements au 04 75 93 30 25. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, c'est la collective, donc les questions féministes. À 19h, éclectrique. Et à 20h, la playlist de mon pote. Nous, on se retrouve lundi pour une prochaine onde curieuse avec Marius et Pâquerette. Ciao !